avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Olivier Drapé, bonjour.
Bonjour.
Pour quelles raisons avez-vous souhaité revenir une fois encore dans le cadre de votre chronique de l'Observatoire sociopolitique diocésain sur le sujet sensible et délicat de l'avortement ?
Alors je ne tiens pas particulièrement à m'apesantir sur ce sujet. Ce n'est pas finalement une volonté de ma part, c'est l'actualité politique qui le nécessite, je crois, parce que le 30 novembre 2021, dans une certaine indifférence générale, l'Assemblée nationale a approuvé, en deuxième lecture, une proposition de loi, dite proposition de loi Gaillot, c'est le nom de cette femme députée qui en est l'instigatrice, qui renforce, comme elle dit, le prétendu droit à l'avortement, c'est-à-dire en fait qui aggrave notablement les conditions dans lesquelles l'avortement peut être pratiqué.
Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quelles sont les principales dispositions de cette proposition de loi ?
Ce texte que l'Assemblée nationale avait déjà approuvé en première lecture en octobre 2020, grâce au soutien massif des députés La République En Marche, mais que le Sénat avait bloqué, rejeté en janvier 2021, ce texte prévoit tout d'abord de porter le délai légal de l'avortement de 12 à 14 semaines, sous prétexte de faciliter l'accès à l'IVG pour un certain nombre de femmes qui se voient contraintes parfois d'aller avorter à l'étranger lorsqu'elles ont dépassé le délai de 12 semaines.
Est-ce si important ou si grave que cela ?
Pour répondre à cette question, permettez-moi de citer les propos d'un partisan pourtant bien connu de l'avortement, gynécologue, le professeur Israël Nizan, qui déclarait il y a quelques semaines, à propos de cette proposition de loi, je le cite, « Tous les arguments que les parlementaires présentent pour allonger le délai sont faux. N'oublions pas, disait-il, que l'allongement du délai d'IVG est un calvaire pour les médecins qui doivent pratiquer une IVG. À 16 semaines d'aménorrhée, soit à 14 semaines de grossesse, le fœtus mesure environ 120 mm. Sa tête est ossifiée. Pour le sortir, il faut démembrer le fœtus et écraser sa tête. C'est insoutenable pour beaucoup de professionnels. » Fin de citation. En d'autres termes, il ne s'agit ni plus ni moins que de démembrer un enfant à naître de 14 semaines, c'est-à-dire tout de même dans le quatrième mois de son développement. Et par ailleurs, je suis tenté de penser que Philippe Gosselin, député qui disait à l'Assemblée nationale le 30 novembre que ce texte ne sera jamais suffisant, 14 semaines, mais pourquoi pas 16 ou plus, je suis assez tenté de penser qu'il a raison, qu'on est dans une surenchère pour des raisons idéologiques et qu'un jour ou l'autre on nous dira que 14 semaines ça n'est pas suffisant et qu'il en faut 16 ou 18 ou 20.
Quelles sont les autres dispositions de cette proposition de loi ?
Il y en a plusieurs qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une banalisation, pour ne pas dire d'une promotion de l'avortement. Par exemple, l'autorisation pour les sages-femmes de pratiquer elles-mêmes des IVG instrumentales, comme si la vocation des sages-femmes et le souhait de l'écrasante majorité d'entre elles n'étaient pas plutôt d'accompagner et d'accueillir la vie. Il y a aussi dans ce texte la possibilité de recourir à l'IVG médicamenteuse à domicile jusqu'à 7 semaines, ce qui banalise l'avortement. Il y a surtout la suppression du délai de réflexion de 48 heures avant une interruption volontaire de grossesse. Et à propos de cette suppression du délai de réflexion de 48 heures, permettez-moi de vous rapporter les réactions qui me paraissent intéressantes de plusieurs députés, des femmes, qui lors de la discussion de ce texte à l'Assemblée nationale ont réagi de la façon suivante. Je cite Emmanuel Ménard. « En quoi ce délai est-il infantilisant pour une femme ? Au contraire, c'est l'inverse. La chirurgie esthétique demande un délai de réflexion. Là, il s'agit tout de même de la conception de la vie. » Une autre députée, Nathalie Bassir, que je cite également, « Prendre le temps de réfléchir n'est pas un signe de faiblesse. La femme a le droit de douter. » Ou encore, Anne-Laure Blin, qui déclarait à l'Assemblée « Les femmes ont la possibilité de réfléchir. Pourquoi leur retirer ce droit ? Avez-vous tellement peur qu'elles changent d'avis ? Faites-vous aussi peu confiance aux femmes ?» Ça me semble tout à fait intéressant. En revanche, puisque vous m'interrogez sur le contenu de ce texte, le seul motif de se réjouir, c'est que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé que Mme Gaillot aurait voulu supprimer, puisque c'était prévu dans sa proposition de loi, finalement, qu'elle ait été maintenue. Il faut dire aussi que le Comité consultatif national d'éthique, comme le Collège national des gynécologues de France et beaucoup d'autres, et une grande majorité de professionnels de santé, étaient tout à fait hostiles à la suppression de la clause de santé spécifique des professionnels de santé, et en particulier des médecins, en matière d'avortement ou d'interruption volontaire de grossesse, comme on dit.
Emmanuel Macron ne semblait guère favorable à cette proposition de loi.
C'est en effet ce qui semble ressortir d'une interview qu'il avait donnée il y a quelques mois maintenant au magazine Elle, dans laquelle il avait déclaré qu'il y était opposé à titre personnel, je le cite d'ailleurs, « des délais supplémentaires ne sont pas neutres sur le traumatisme d'une femme, mais je respecte la liberté des parlementaires ». On est encore dans le « en même temps », vous voyez, de M. Macron. Mais tout ceci dénote, selon moi, une certaine hypocrisie, car entre-temps, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est déclaré favorable à cette proposition de loi. Il est même allé jusqu'à reprocher aux opposants de ne pas se soucier du bien-être des femmes. Et in fine, c'est le gouvernement lui-même qui a décidé l'inscription de ce texte à l'ordre du jour des travaux du Sénat, de telle sorte que cette proposition de loi ait une chance d'être définitivement adoptée avant la fin de la législature actuelle, fin février 2022.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse vous reprocher de remettre en cause la loi Veil, ou du moins l'esprit de la loi Veil, qu'aucun responsable politique ne conteste aujourd'hui en France ?
Je me contenterai de répondre qu'en 1975, la loi Veil n'entendait nullement consacrer un prétendu droit à l'avortement, mais dépénaliser l'avortement pour des raisons de santé publique liées au drame des avortements clandestins, de telle sorte que les médecins ou les femmes y recourant ne puissent pas être poursuivis pénalement. Je rappelle d'ailleurs que l'article 1er de la loi Veil le dispose, je cite, « que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Or, au fil des ans, le gouvernement, le Parlement, le lobby des partisans acharnés de l'avortement se sont efforcés et sont parvenus d'ailleurs à dénaturer la loi Veil en la modifiant, en la transformant, en l'aggravant sans cesse un peu plus. Et je citerai simplement, pour être plus concret, le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale avec la loi Roudy en 1982, ce qui rend d'une certaine manière tous les contribuables, même ceux qui considèrent que l'avortement est un crime, complice de l'IVG, 93, loi Neyertz, le délit d'entrave à l'IVG, 2001, le délai légal pour avorter est passé de 10 à 12 semaines de grossesse, en 2014, la loi a supprimé la notion de détresse comme condition pour recourir à l'IVG, en 2016, on a supprimé le délai minimal de réflexion d'une semaine qui était donc prévu par la loi Veil à l'origine, en 2017, on a encore étendu et aggravé le délit d'entrave à l'IVG, notamment pour toutes les informations relatives à l'IVG qu'on peut trouver en ligne ou qui peuvent circuler par voie électronique, etc. etc. Donc je pense effectivement qu'au fil des ans, on s'est éloigné, on a renié ou trahi finalement le texte même de cette loi et l'esprit de cette loi.
Que recommanderiez-vous en ce qui concerne l'avortement et le respect de la vie ?
Vaste sujet, mais en quelques mots, l'avortement ne doit pas apparaître comme l'unique solution pour des femmes qui sont confrontées au problème, que je ne sous-estime pas bien entendu, d'une grossesse non désirée. Des solutions alternatives existent ou devraient être envisagées pour les femmes en difficulté. Je cite à ce propos un communiqué de Choisir la vie, qui est le suivant. Il aurait été nettement plus intelligent de développer dans cette proposition de loi, des propositions concrètes de soutien aux femmes enceintes en proie aux doutes ou aux difficultés d'ordre matériel ou psychologique. Et pour ma part, j'ajoute qu'il est encore possible, et qu'il est même sans doute souhaitable, de manifester son opposition à cette proposition de loi, sur laquelle le Sénat se penchera le 19 janvier prochain, comme entendent le faire d'ailleurs les organisateurs de la Marche pour la vie, qui aura lieu cette année, le 16 janvier, à Paris.
Le vote de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale ne semble pas avoir suscité beaucoup d'opposition, ni beaucoup de réactions, y compris de la part de l'épiscopat.
Alors concernant l'épiscopat, quelques évêques, mais les principaux médias se gardent bien de répercuter ce genre d'informations, se sont tout de même manifestés. C'est le cas par exemple de Mgr Dominique Ray, évêque de Toulon, dans un tweet du 30 novembre, disant « Nous ne pouvons nous taire devant cette disposition si dramatique ». Et pour conclure notre chronique sur une note plus positive que nous inspire l'espérance chrétienne qui nous anime à l'approche de Noël, eh bien, je propose aux auditeurs de réfléchir à cette courte méditation d'un évêque auxiliaire de New York, Mgr Austin Vaughan, qui écrivait « Lorsque Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il n'est pas apparu brusquement au sommet d'une montagne, sa vie a débuté dans le sein de la Vierge Marie. Pendant 9 mois, le centre de l'univers entier, la personne la plus importante et le bien le plus important ont été un bébé à naître dans le sein de Marie. » Dieu a fait cela pour nous enseigner le prix qu'il attache à chaque vie humaine dès son commencement.
Merci Olivier Drapé.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.